m'entendez bien. Je vais parler fort. Mais pour commencer, merci beaucoup aux organisateurs de cette journée d'avoir invité le CLIMI. On est vraiment ravis de pouvoir investir ce temps et cette table ronde pour vous présenter notre démarche par rapport aux outils ludo-éducatifs. Vous dire déjà en quelques mots d'où on parle. Donc le CLIMI, c'est le service public de l'éducation, médias à l'information. On a quatre grandes missions. La formation des enseignants et des formateurs. On a 180 000 bénéficiaires environ par an de nos actions de formation qui sont rendues possibles par le fait qu'on couvre tout le territoire avec des référents CLIMI dans toutes les académies. Notre deuxième grande mission, c'est de produire des ressources. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de ces ressources, mais aussi de la manière dont elles s'articulent avec nos actions de formation. La troisième grande mission du CLIMI, c'est de soutenir la création et l'expression des élèves dans le cadre scolaire à travers la production de médias, que ce soit radio, télé, journaux, réseaux sociaux. Et puis la quatrième grande mission du CLIMI, c'est d'organiser des événements qui sont plus connus que le CLIMI, comme par exemple la semaine de la presse et des médias dans l'école que vous connaissez a priori toutes et tous ici, qui mobilise 3 millions d'élèves et qui est la plus grosse action éducative portée par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, on a un projet qui est un projet qui s'appelle CLIMISUP et qui vise en fait à fédérer des réseaux de chercheurs pour les mettre en relation à travers des événements et des publications avec les formateurs et les praticiens de l'EMI. Et dans ce cadre-là, on produit des évaluations de certaines de nos ressources. Notamment, depuis quelques années, on a développé des ressources en direction des familles qui nous ont permis d'investir la fiction. La fiction qui n'est pas forcément quelque chose de commun pour l'éducation média à l'information. Donc on a produit une ressource qui s'appelle la famille tout écran avec une famille de fiction, avec des enfants et des adultes qui traversent un certain nombre de difficultés. Et on a pu se rendre compte à travers les différentes évaluations qu'on a menées que c'était un moyen de favoriser l'identification, qui était un levier d'identification assez puissant. Je pense notamment à cette BD qui s'appelle « Dans la tête de Juliette » et qui explore le rapport ambivalent, complexe qu'entretiennent les adolescents avec leur smartphone. Et pour cette BD, on a travaillé par exemple avec notre directrice scientifique, une chercheuse, un scénariste, une illustratrice. Et donc déjà, dans la conception du projet et de la ressource, ça a été complètement passionnant. Et on parlait de décalage et de mouvement tout à l'heure. Et nous, ça nous oblige aussi dans nos pratiques professionnelles à nous décaler un petit peu pour travailler comme ça avec d'autres compétences, d'autres approches. Et cette ressource, elle a été évaluée par Anne Cordier, qui est chercheuse en sciences de l'information et de la communication et qui a fait une étude de réception de la BD pour voir comment cette BD, cet univers de fiction, qui est néanmoins documenté, permettait pour les adolescents de parler de leur rapport au smartphone d'un point de vue moins complexe, moins moral surtout, parce que c'est souvent une question qui peut être abordée d'un point de vue moral. Donc voilà, et je vous invite à consulter cette étude qui est sur notre site. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors déjà pour préparer cette table ronde avec les collègues, on a plongé dans les archives du CLIMI. On avait trouvé plein de boîtes qui étaient super vintage, des boîtes de jeux, mais on n'a pas pu les apporter parce qu'elles étaient trop lourdes. Mais ça a été assez drôle d'aller dans le centre de documentation et de découvrir en fait que le CLIMI, on a découvert des choses sur nous-mêmes et sur notre propre histoire. Ça fait 25 ans que le CLIMI, en fin de compte, produit des jeux, des ressources qui sont ludiques, ludo-éducatives. Et voilà, donc on a aussi découvert une application qui avait été faite avec l'AFP à l'occasion de la semaine de la presse 2014. Enfin voilà, beaucoup d'archives mais qu'on n'a pas pu ramener aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une histoire du CLIMI par rapport à cette approche d'engager en fait la production de ressources avec une dimension ludique, interactive. Mais je vais laisser mes collègues en parler parce qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Donc on a prévu trois temps. Le premier, c'est avec Sylvain Joseph, qui est ingénieur de formation au pôle Labo Formation et qui donc va expliquer la manière dont, de quoi on parle quand on parle de ludopédagogie, comment ça s'illustre concrètement à travers des cas, des productions, mais aussi avec les enjeux de formation. Ensuite, avec Sébastien Rochat, qui dirige le pôle de production de ressources du CLIMI, le pôle studio, on va plonger dans les coulisses et les cuisines de la conception d'un jeu qui s'appelle Classe Investigation et que certains vous connaissent, d'entre vous connaissent déjà peut-être, et qui en est à son quatrième scénario. Et avec Laure Delmoni, qui est chargée des affaires européennes, on va vous présenter un projet qui a été mené dans le cadre du projet européen De Facto, dont le Clémy est partie prenante, et qui est un projet de podcast, et qui là aussi utilise le ressort de la fiction, et qui a été produit avec Viginum sur la question des ingérences numériques étrangères. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, on a une collègue qui est de Finlande, finlandaise, et vous savez que la Finlande est un peu un phare en Europe sur l'éducation aux médias, à l'information. Alors, elle est au programme, mais ce n'était pas prévu forcément. En tout cas, c'est libre à elle si elle veut s'exprimer en fin de table ronde. Elle s'exprime en anglais. Et donc, voilà, Jenny Koski, en tout cas, si vous voulez la rencontrer, lui parler, elle est... actuellement sur son téléphone en captation de latence. Bonjour Jenny. Voilà, elle est là et donc voilà, vous pouvez lui parler si l'EMI en Finlande vous intéresse et vous inspire et que vous voulez en savoir plus. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Sylvain pour que tu nous présentes la ludopédagogie.
Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous parler sur la manière dont on utilise la ludopédagogie au pôle labo formation au Clémy. Donc, on l'utilise sur deux grandes thématiques. Tout d'abord en direct avec les apprenants, parce que pour nous la ludopédagogie, ça nous permet de parler à tout le monde et pas seulement à des enseignants et pas seulement à des élèves, mais vraiment à tout type de public. Pourquoi ? Parce que les codes ludiques sont connus de tout le monde dans la société. C'est des codes, un peu des codes universels. Donc quand on utilise la ludopédagogie, on peut travailler avec des parents, avec des élèves, avec des enseignants, avec voilà, dans les quartiers. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un élément qu'on utilise pour mettre en place de la ludopédagogie. La deuxième chose, et j'en parlerai dans les deux cas qui suivent, ça nous permet la libération de la parole. Donc ces écrits fictionnels qui représentent une réalité, puisque nous, on va être beaucoup autour d'études de cas, ça va permettre justement aux personnes qu'on a en face de nous de parler d'un sujet sans parler d'eux-mêmes. Donc c'est ce pas de côté qu'on fait qui permet de libérer la parole et qui évite de stigmatiser en fait des personnes qui parleraient d'eux-mêmes. Donc c'est aussi un deuxième levier qu'on utilise de ludique qui va permettre justement de faire ce travail-là. Troisième levier, c'est les compétences transversales, puisque nous, les aspects de ludopédagogie qu'on utilise, c'est vraiment du travail collaboratif. Donc on veut que ça fait partie aussi de l'ADN du Clémy, hein, de faire travailler les gens ensemble, en équipe. Et donc on utilise aussi ce levier-là. Et donc c'est ces compétences transversales, ces soft skills, comme on dit, qu'on va essayer de travailler par l'intermédiaire du jeu et par l'intermédiaire de la ludification. Et enfin, bah, le dernier qui est quand même essentiel, c'est la motivation. Quand vous proposez à un groupe de jouer, voilà, on acquiert l'attention très rapidement et ça permet justement d'engager dans des situations les gens beaucoup plus facilement. Donc voilà les quatre raisons pour lesquelles on utilise la ludopédagogie en direct avec nos apprenants. C'est les publics terminaux, puisque je reviendrai après en formation de formateurs. C'est pour ça que je fais ces deux slides différents. Alors, je vais vous parler d'un premier cas. Merci. C'est un jeu qu'on a construit. À l'époque, je travaillais en académie, j'étais cordo académique dans l'académie de Versailles. Donc on avait conçu un jeu qui s'appelle Médiasphère, donc c'est les années 2015-2016. Et on avait un objectif, c'était de parler du numérique, de l'EMI dans le numérique, et poser tout type de questions sans justement parler de son cas. Donc on parlait de cyberharcèlement, on parlait de choses potentiellement dures. Et on voulait trouver un levier pour libérer la parole et faire qu'on puisse travailler aussi bien avec des élèves qu'avec des parents, aussi bien à l'école qu'en médiathèque. Et donc on a conçu ce jeu de plateau, hein, qui est une sorte de trivial poursuite, hein, où vous gagnez pas des camemberts, parce que c'était pas des camemberts pour cet aspect-là, mais on gagne des jetons si on répond plus ou moins bien aux questions. Donc là, je vous ai mis un exemple de question qui était sur la partie connectée. Voilà, sur mon smartphone, je peux installer des applications gratuites, ça ne m'engage à rien puisque c'est gratuit, vrai ou faux. Donc, et à chaque fois, il y avait le expliquer pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. On ne s'arrêtait pas à la réponse principale, il fallait expliquer le pourquoi du comment. Et c'est l'explication qui donnait l'accès au badge ou l'accès au jeton. Et à côté de ça, on a créé donc un livre de jeu pour le maître du jeu, donc pour l'enseignant, pour le personnel de médiathèque, qui va lui permettre justement, lui, d'avoir justement les attendus de réponse dans les explications. Donc on a sorti deux versions, c'est dans les ateliers Canopée, hein, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a encore des... il n'est plus en vente, mais les ateliers Canopée en ont des exemplaires. Donc on était vraiment sur une médiation autour du numérique, puisque le citoyenneté numérique, on était autour des droits et des responsabilités. Pour ma vie en numérique, c'était sur l'identité numérique et la protection des données à caractère personnel. Vous voyez, c'est le RGPD, etc. Ça tournait autour de ces choses-là. Et connecté, on était autour de l'usage des smartphones et d'Internet au quotidien et des réseaux sociaux. Donc on était vraiment trois sphères sur lesquelles on voulait libérer la parole. Donc c'était en coopération, puisque là, non seulement il y avait des plateaux de jeu, comme vous voyez ici pour un autre jeu, mais on avait également des bâches qu'on pouvait installer par terre et jouer autour. Donc voilà, il y avait des systèmes un peu différents qu'on avait mis en place pour fonction des modalités de jeu. Donc ça, c'est la première expérience qu'on a eue en ludification. Et on a, en fait, nous, l'intérêt, c'est qu'on a produit 2000 exemplaires de Médiasphère. Il n'y en a plus un à vendre. Donc là, les ateliers Canopée ont vendu tous leurs exemplaires. Donc il en reste en prêt. Donc voilà, il y a encore des possibilités, mais ce n'est plus à l'achat. Donc c'était notre première expérience.
Quelle année, pardon,
2016. C'était, ouais, j'étais pas encore au national, j'étais encore en académie, donc 2016. Et donc nous, on a apporté toute la partie EMI, évidemment, sur ce jeu-là. Le deuxième, c'est Émissaire, qui est sorti l'année dernière. Donc Émissaire, qui a été conçu au pôle labo du Clémy par Guillaume Garçon, un collègue, et donc qui est inspiré du jeu Top Ten. Et toujours, c'est toujours la même dynamique, hein. L'objectif, c'était vraiment, encore une fois, de libérer la parole sur des sujets qui peuvent être anxiogènes et de ne pas avoir des réponses toutes faites. Donc là, le concept a été poussé un peu plus loin qu'avec Médiasphère. C'est-à-dire que le concept de Top 10, c'est de dire on ne veut pas une réponse unique, mais il faut faire une série de propositions et vous la classez en général de la moins efficace à la plus efficace. Donc on est vraiment dans une gradation de la réponse. Et c'est ça qui nous intéressait, nous, pour parler des thématiques numériques, EMI, c'est de dire c'est pas du oui-non, c'est une échelle, et on analyse ensemble ce qu'on peut faire avec et quel type de réponse on peut apporter et avoir une vision un peu méta sur la réponse. Donc voilà, c'est Émissaire qui a été fait à ce niveau-là. Et ce jeu-là est en libre téléchargement sur le site du Clémy, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est un jeu, vous imprimez des cartes, vous imprimez le guide du jeu et puis vous y jouez. Il n'y a pas de plateau de jeu, il n'y a pas de boîte de jeu. Donc là, par contre, vous pouvez... Donc il a un an, 2020, c'est Cocktail Game, c'est Top 10 hein, qui est de 2020, c'est pas notre jeu. Donc voilà en gros deux exemples de production du pôle labo hein, sur lesquels on a travaillé dans le cadre de l'innovation pédagogique et justement nous on l'utilise aussi en formation lorsqu'on fait des formations autour du numérique. Voilà, aussi pour libérer la parole des enseignants, pour justement avoir des représentations sans parler de leur cas particulier. Alors pour conclure ce chapitre-là, dernière slide. Donc voilà pour nous hein, les enjeux pour les enseignants qui utilisent ça. Alors ça peut être les apprenants, hein, c'est pas forcément les enseignants, ça peut être des gens, je vous disais en médiathèque, c'est éviter la stigmatisation et l'utilisation de témoignages. Donc c'est pour ça qu'on crée des études de cas qui reflètent la réalité, mais qui ne sont pas des cas personnels. Voilà, c'est vraiment ce pas de côté qui nous semble important, parce qu'on a vu des situations, malheureusement, en établissement scolaire, où au départ on faisait du témoignage, et voilà, ça marchait pas, ça matchait pas, parce que les gens n'osaient pas déjà prendre la parole, et lorsqu'ils prenaient la parole, ça pouvait se retourner contre eux, donc il y avait vraiment ce besoin-là de pas de côté. Le réinvestissement des compétences, hein, ou un transfert de compétences, en disant ce que je vois concrètement dans le jeu, bah, ça m'est utile dans ma vie réelle. Donc on n'est pas, c'est pas des jeux déconnectés d'un quotidien. Donc c'est dépendant, hein, les uns se dépendent des autres. Et enfin, la légitimité pédagogique. Comme on utilise des principes ludiques à des fins pédagogiques, en fait on arrive à montrer que le jeu, il a de l'intérêt pédagogique. C'est pas juste une facétie de la part d'un enseignant d'utiliser le jeu. C'est que derrière, on travaille des compétences, on est dans notre métier de passer des savoir-faire, des savoir-être, et pas que des savoirs. Donc on arrive justement à montrer que le principe ludique est utilisé comme d'autres principes en éducation. Donc on, voilà, donc c'est aussi ça qu'on voulait montrer aux enseignants, que le jeu fait partie du panel de possibles dans l'éducation et qu'il ne faut pas le rejeter par principe. Donc voilà pour la partie enseignant. Et on utilise aussi la ludopédagogie dans nos formations de médias scolaires. Et donc là, l'intérêt pour nous, c'est l'immersion et l'identification. Donc on fait des plans, on va plus être orienté jeu de rôle, où on va s'immerger dans une rédaction qui va produire une émission de radio, qui va produire une émission de télé. Donc c'est plutôt une immersion pour comprendre comment ça marche. Donc on est vraiment dans un vie-ma-vie très scénarisé, mais ça marche vraiment bien. Et derrière, c'est compréhension, je vais vous montrer derrière un exemple de web radio, c'est la compréhension des processus techniques qui permettent de réaliser une émission. Donc c'est vraiment ça, le vie ma vie permet de, je vais réaliser une émission, donc je vous mets dans la peau d'un journaliste, je vous mets dans la peau d'un réalisateur, je vous mets dans la peau d'un technicien pour comprendre comment ça marche tout ça. Également comprendre la place de l'écriture journalistique, donc les codes de l'écriture journalistique. Bon, voilà, on est ici à l'AFP, on est vraiment dans le bon lieu pour parler de tout ça, mais de dire que c'est pas juste une mise en son, hein, de faire de la radio, c'est pas qu'une mise en son, il y a aussi un message à passer. Donc c'est vraiment voir ces deux aspects, la technique et le message. Et derrière, de dire maintenant ce que vous avez vu avec nous en formation, vous voyez les freins, vous voyez les leviers. Faites pareil avec vos élèves. Vous pouvez utiliser la même dynamique avec vos élèves. On va passer à la salle suivante. Ah ouais, c'est celui-là. Donc voilà, je vous ai mis, donc c'était vraiment l'émission Star Wars. Donc on a un conducteur avec des rôles. Hein, j'avais mis des petits fantômes à l'époque, justement pour dire vous interprétez chacun un rôle. L'indicatif de l'émission, c'est le technicien qui l'envoie. Hein, ça renvoie à la fiche technicien. Le présentateur, c'est pas le même. Voilà, il est sur le micro 1. Il fait son introduction, les textes sont écrits, ils ont les rôles, vous savez ce que vous allez faire, vous savez votre travail que vous devez faire, vous avez vos textes qui sont écrits et on fait l'émission. Et donc là, l'intérêt, c'est de montrer qu'une émission dans les conditions du direct, voilà, c'est quelque chose qui est engageant. Il faut vraiment s'engager pour pas éviter d'avoir des blancs, pour que les textes soient bien dits. Donc on arrive à comprendre les rôles dans une émission de radio de chacun. Et derrière aussi, les textes qui sont écrits, ils ne sont pas forcément bien écrits. C'est un choix aussi de notre part, parce que ça nous permet d'avoir une rétroaction, un côté méta sur justement cette écriture qui est des fois plus littéraire que radiophonique. Donc on a un débrief, l'émission dure en gros 20 minutes, et après on a 40 minutes de débriefing, justement pour comprendre qu'il y a des difficultés quand on met ce type de séquence en place avec les élèves, mais il y a des leviers et qu'il faut, si on ne le vit pas, on est confronté en direct avec des élèves et là, ça peut être très compliqué. Alors qu'on fait ce type de jeu de rôle, ça simplifie en fait derrière le transfert auprès des élèves. Et on va passer à la dernière slide, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, c'était l'innovation pédagogique. Donc c'est pour nous, c'est un vrai changement dans la formation. On n'est pas dans le descendant, on est vraiment dans une immersion pédagogique. Donc on innove. Est-ce que c'est encore une innovation maintenant en 2026, je ne sais pas, mais à l'époque, oui, c'était innovant. Derrière, toujours comme pour les enseignants, c'est qu'on ne travaille pas que les compétences techniques ou didactiques. On va aussi travailler vraiment les savoir-faire, les savoir-être, la coopération, le fait de la complémentarité des actions, vraiment ces soft skills qui sont de plus en plus importants, et ça permet vraiment de se plonger là-dedans. Et enfin, j'en ai parlé dès la première slide, c'est on aime bien la pédagogie du faire au CLEMI, puisque on fait faire des journaux scolaires, on fait faire de la radio, voilà, on veut qu'ils s'engagent, les élèves ont des choses à nous dire, donc voilà, on est vraiment dans cette pédagogie-là, et on voit que ce type de pédagogie permet d'intégrer cette pédagogie du faire. Donc on retrouve des points communs qui font que le CLEMI est engagé depuis 25 ans dans la ludopédagogie.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci.
Alors, comme je vous disais, voilà, ça permet en fait de comprendre comment nous on se situe avec une approche un peu théorique aussi, avec des apports d'éléments de positionnement sur la ludopédagogie et puis des cas concrets. Je propose que si vous avez des questions tout de suite pour Sylvain maintenant, bah, on peut les prendre maintenant avant de passer la parole à Sébastien qui va. Oui.
Sans micro. C'était à propos des jeux, évidemment, pour rebondir sur mon exclamation. Donc, pourquoi ne pas... Enfin, déjà, super que le deuxième jeu soit imprimable, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire la même chose avec le premier jeu ou de le réimprimer ? Parce que c'est dommage.
Alors, pour le premier jeu, le jeu commence à dater. Hein. Je disais que c'était 2016. Et il a subi une mise à jour juste après Covid ou pendant Covid de mémoire. Donc, la mise à jour, elle a déjà 4-5 ans. Et si on devait ressortir Mediasphère, il faudrait refaire les questions parce que l'intelligence artificielle n'est pas présente. Voilà, on a plein d'angles morts qui sont là. Il faudrait refaire des questions. Donc, derrière, voilà.
Le ministère a sorti
L'Odyssée du numérique,
qui est un peu une actualisation de Mediasphère et que vous pouvez trouver sur le
site. C'est en libre téléchargement.
Oui.
Ouais.
Et ces jeux-là, ils sont jouables par qui? Parce qu'ils sont a priori plutôt à destination des scolaires, je crois comprendre.
Alors, les parents, parce que le courant de la parentalité numérique est organisé par la mairie de Paris, et il y avait justement des animateurs, des travailleurs sociaux qui utilisaient l'Odyssée du numérique du ministère de l'Éducation, qui a priori n'a pas été conçu pour un contexte familial ou d'accompagnement des parents en difficulté. Donc, on n'a pas du tout participé à l'Odyssée du numérique, hein, je constate juste qu'en fait, il y a des diversités de contextes d'usage.
D'accord, et juste peut-être dernière question. Moi, j'ai une étudiante que j'ai suivie pour un projet personnel et professionnel qui travaillait sur le droit et la vie privée et qui, comme concrétisation, a élaboré les prémices d'un jeu, en fait, qui permettrait d'enseigner aux joueurs quels sont les enjeux, quels sont les outils, quels risques ils prennent quand ils se branchent, voilà. Et est-ce que le... Et moi, j'ai trouvé ça tellement super, je lui ai dit, si je trouve moyen, je pense que ça mériterait d'aller au-delà d'un devoir scolaire. Donc, est-ce que le CLEMI peut fournir des accompagnements, ou est-ce que vous voyez des pistes, ou voilà, quand quelqu'un comme
bien
ça...
Bien sûr, qui on peut déjà échanger avec elle. Moi, spontanément, je dirais que c'est plutôt un sujet CNIL, mais la CNIL a un collectif éducnum, dans lequel elle pourrait venir, par exemple, présenter son... Enfin, là, je... C'est des
elle hypothèses. A fait le quart et tout.
Voilà. Non, mais de toute façon, on peut en parler après. Ouais. Plaisir.
D'accord. Ok. Merci.
Arnaud ?
Oui. Moi, j'avais une question sur le processus industriel. C'est-à-dire, quel processus pour la fabrication, alors je sais bien que c'était en 2016, je vous comprends que vous n'y étiez pas.
Si.
Donc, comment on passe justement à ça? C'est-à-dire qu'on se posait la question, nous, par exemple, avec De Facto, en tout cas, on pourrait peut-être... on fait déjà tellement de choses qu'on n'y arrive plus, mais...
Pas du tout.
Mais... ici. Pour nous, c'est un monde inconnu, ça. Il y a des fabricants de jeux qu'on peut simplement saisir. Tu as un coucou, c'est nous, on a un jeu, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un jeu de plateau? Enfin, comment ça se passe?
Alors, pour le premier Mediasphère, on est parti de rien, parce que c'est l'atelier Canopée des Yvines et le Corrado Clémy de Versailles. C'était moi qui l'avons conçu. Et derrière, c'est Canopée, l'éditeur. Donc, c'est Canopée qui a produit... qui a fait fabriquer les jeux de plateau, et on a été aidé par pas grand monde, donc c'était vraiment une intelligence interne à Canopée. Donc voilà, c'est fait comme ça, donc on a réfléchi beaucoup et on ne s'est pas fait aider. Peut-être qu'on aurait évité beaucoup d'écueils si on s'était fait aider, on aurait été beaucoup plus vite surtout. Et pour le deuxième, en fait, Guillaume Garçon, qui a conçu le jeu, lui a pris une dynamique de jeu déjà existante. Top 10, hein, ouais. Le fait de classer, justement, d'avoir une question et de la classer en nuances, cette dynamique de jeu existait. Donc on a demandé l'autorisation, justement, à la personne de pouvoir utiliser cette dynamique de jeu, ce concept. Et donc on nous a accordé le droit, donc c'est pour ça qu'on a pu décliner justement ce concept de jeu. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose de voilà, on a une dynamique de jeu qui nous parle en disant j'ai envie d'utiliser celle-là, bah, on contacte les éditeurs. Et sinon, après, oui, contacter les éditeurs de jeux, ça me paraît qu'ils sont open, hein, les éditeurs de jeux, pour être contactés, je pense. Moi, je sais que pour Mediasphère, j'en avais parlé à... J'ai perdu le nom, peu importe, un des plus grands éditeurs français. Ils nous ont dit, mais nous, 2000 exemplaires, on peut lancer des choses. C'est déjà des ventes, quoi. C'est pas rien.
D'accord.
Direction la Grande Récré. On va passer avec la sollicitation, ouais, avec Sébastien.
Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi c'est Sébastien Rochat, donc je suis responsable du pôle studio au CLEMI. Alors à l'origine je suis professeur d'histoire géographie, j'ai enseigné en collège et en lycée. Ensuite j'ai travaillé comme journaliste pour un site de critique média qui s'appelle Arrêt sur l'image. Et donc je suis au CLEMI depuis 10 ans pour produire des ressources pédagogiques à destination des enseignants. Alors quand on dit ressources pédagogiques, ça recouvre tout un tas de choses. Hein. C'est à la fois, vous pouvez avoir des fiches pédagogiques qui proposent des activités, vous pouvez avoir des vidéos de présentation, des fiches info, enfin tout est assez varié. Et nous, on a essayé de se spécialiser sur des activités à faire en classe et des activités clés en main. Et avec mes collègues, on souhaitait créer une activité un peu différente de ce qui se faisait jusqu'à présent. Moi, quand j'étais élève, j'étais assez mauvais public. Quand j'étais prof, j'étais aussi assez mauvais public. Et donc, on a essayé de créer quelque chose d'un peu motivant pour les élèves. Et au départ, ce qu'on voulait faire, c'est un escape game. Mais on voulait que la mécanique du jeu fasse écho à ce qui se passe dans la vraie vie. Sauf que rarement, un journaliste se trouve coincé dans une pièce à devoir chercher un cadenas avec un code à 4 chiffres. Et donc on a commencé à travailler dessus et puis on a abandonné parce que ça n'avait aucun sens de faire un escape game en EMI, en tout cas par rapport à nous ce qu'on voulait proposer. Et donc on a créé Classe Investigation. Et Classe Investigation, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un jeu de rôle où les élèves jouent le rôle de journalistes de terrain. Ils doivent écouter des témoignages, consulter des documents et ensuite produire un contenu journalistique. À partir de là. Alors, contenu journalistique, ça peut être un article, ça peut être un podcast, ou eh bien, un duplex. C'est comme ça que les premiers scénarios qu'on a créés, un duplex, c'est-à-dire que ce sont des journalistes de chaînes d'information en continu, et après avoir consulté des témoignages, eh bien, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont compris. Et les histoires de classe d'investigation sont des histoires fictives, mais au fait de l'EMI, donc elles sont inspirées de faits réels. Et la première histoire, elle date de 2014, et je vais vous passer un extrait de BFM TV de l'époque.
Puis les pompiers policiers de Seine-et-Marne qui sont toujours à la recherche d'un jeune tigre qui a été aperçu ce matin par une riveraine. Les habitants ne doivent pas sortir de chez eux. Actuellement, c'est un jeune tigre, en l'occurrence, qui n'a toujours pas été localisé. On écoute le sous-préfet.
L'exécutif de sécurité en place va être notamment l'occasion de la sortie des écoles. L'objectif est que les enfants ne sortent pas à pied tout seuls. Par conséquent, ils seront cherchés dans un véhicule à l'école ou transportés par les transports scolaires et récupérés par d'autres véhicules, notamment municipaux.
Et pour la population d'alentour?
Pour la population d'alentour, pour l'instant, l'instruction de se confiner, il n'y a pas de risque si on reste dans son hémisphère.
Voilà, donc ça c'est...
Vous m'entendez?
En fait, on n'a jamais compris ce que le micro a apporté de plus. Il faut le dire.
S'il marche, ça a apporté deux choses. Mais
toi, tu vois,
est-ce qu'il marche?
Qui s'en occupe des micros?
Ça apporte un...
Mais où est-ce qu'il sort le son
de... Un label AFP.
Amplifié. Oui, c'est ça. Ça permet de brander l'événement. C'est ça.
Mais il faut parler vraiment de
micro. Ouais. Celui-là, il marche. Ouais.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut l'embrasser. C'est une question d'inclinaison, voilà, peut-être.
Mais attendez.
Ouais. Ouais, parfait. Allez.
Non, parce que, voilà, en fait, on fait une captation audio, donc on a besoin dans la mesure possible.
Ok. Le meilleur son possible.
Ouais.
Voilà, donc ça c'était en 2014, voilà, donc un tigre en Seine-et-Marne qui s'est échappé. Alors à l'époque, tous les médias avaient embrayé pendant à peu près 48 heures, il y avait BFM TV, il y avait même une dépêche AFP. Alors il y a prescription, parce que c'était en 2014, donc je peux le dire. Et tout ça partait d'un témoignage d'une riveraine qui avait vu sur un parking d'un centre commercial, donc un tigre, et qui avait prévenu son mari, et en fait l'information avait été reprise. Donc ça avait duré 48 heures, et au bout de 48 heures, on a vu le fameux discours.
Les pompiers, les policiers.
qui est ici.
Il y a un autre feuilleton qui a passionné également, notamment ceux qui vivent en région parisienne, c'est le feuilleton du tigre, cette chasse du tigre en Seine-et-Marne. Alors finalement, ce n'est pas un tigre, c'est le coup de théâtre de la journée. Marie-Claude Bomsel, bonsoir, vous êtes vétérinaire, vous travaillez au Jardin des Plantes, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. À Paris, on a donc déployé énormément de moyens du côté de la Seine-et-Marne, du côté de Ferrières notamment. Il y avait un hélicoptère qui a survolé la zone toute la nuit. Finalement, l'animal traqué ne serait pas un tigre.
Oui, ça semblait assez évident dès le départ.
Ah bon, dès le départ ?
Oui, nous avions...
Donc c'était assez évident, mais pendant 48 heures, ça a permis d'alimenter, d'alimenter les chaînes d'infos. Et donc c'était un gros chat. Alors, nous, ce qui nous a intéressé dans cette histoire, puisque donc on l'a travaillé avec les élèves, c'était évidemment la question des sources. C'est-à-dire qu'en fait, tout cet emballement médiatique est lié au fait à la faiblesse d'une source de départ, et ensuite au fait que tous les médias ont embrayé et se sont sentis obligés de traiter le sujet. Alors, avec plus ou moins de rigueur, voilà, certains médias utilisaient le conditionnel, faisaient attention, prenaient certaines distances avec le récit, et puis d'autres, voilà, ont exploité, on va dire, le filon, et en étant beaucoup moins prudent. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans cette histoire, on est parti de cette histoire-là pour créer le premier scénario de classe investigation, qui s'appelle donc Alerte aux zoos. Alors on s'est inspiré, hein, c'est pas la même histoire, mais en gros c'est deux fauves qui se sont échappés d'un zoo, et les élèves vont interroger des à la fois des riverains, le directeur du zoo, vétérinaire, etc. Et ils vont produire un duplex à l'issue donc de ce jeu. Et évidemment, on va travailler avec eux la notion de source. Alors, ce jeu aujourd'hui, Alerte aux zoos, donc qui date de 2019 de mémoire, on l'a décliné. Alors, on l'a décliné pour le premier degré, qu'on a appelé classe investigation junior, CE2, CM2. Alors là, les élèves, ils écoutent des témoignages, mais ils doivent répondre à des questions. Alors, soit ils cochent dans un QCM pour les élèves qui ont des difficultés à l'écrit ou qui sont plus jeunes et qui ont du mal à pouvoir faire leur propre phrase. Ou alors, on a une version avec juste des questions et ils peuvent eux-mêmes écrire leur duplex. Donc ça, c'est classe investigation junior. On a pour le collège et le lycée, donc le scénario 1, Alerte aux zoos. Et cette année, on a transposé cette histoire en anglais pour proposer la version anglaise du jeu à destination donc des profs d'anglais pour qu'ils puissent le faire avec leurs élèves au collège. Donc ça, c'est le point de départ. Et moi, je vais essayer de vous expliquer. Aujourd'hui, classe investigation, c'est 4 scénarios. Donc c'est Alerte aux zoos, explosion à l'usine, le procès de Bobigny. Donc là, c'est un scénario particulier puisque c'est le procès de l'IVG et le procès plutôt en faveur de l'IVG. Et là, on s'inspire donc de ce procès-là et on a utilisé les verbatims donc du procès de Marie-Claire Chevalier. Et là, c'est la première fois en fait qu'on a utilisé des sources réelles. Et on n'a pas changé le verbatim. Et là, il y a une dimension historique que les autres scénarios n'ont pas. Et moi, je vais vous présenter le quatrième scénario, le dernier né, Trafic en Amazonie, que nous avons conçu en partenariat avec Forbidden Stories, donc un consortium de journalistes. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on a créé ce jeu et quelle est notre méthode de travail, et pour ensuite vous montrer un petit peu les effets que ça peut avoir en classe. Alors concrètement, pour ce quatrième scénario, on a consulté en fait les enseignants, une partie des enseignants qui avaient été formés à tous les autres scénarios, pour leur demander en fait ce qu'ils souhaitaient qu'on traite comme sujet. C'est histoire de partir des demandes du terrain et des besoins. Et il se trouve que c'est la question du développement durable qui est ressortie très largement. Là-dessus, on a voulu nous rajouter des notions clés en EMI qu'on n'avait pas traitées dans les précédents scénarios. La question de l'OSINT, par exemple, donc les données ouvertes, la question du lanceur d'alerte et le travail en consortium. Aujourd'hui, le travail en consortium, c'est quelque chose qui se développe. Vous avez plein d'affaires, tout ce qu'on appelle les leaks. Souvent sont traités par plein de rédactions dans le monde entier, coordonnées. Et donc on voulait travailler sur ce sujet. À partir de là, on a écrit un scénario de classe investigation. On a effectué des tests avec des enseignants pour vérifier que le scénario tenait la route. Et surtout des tests en classe. Ça, c'est un des éléments clés en fait pour ce jeu de classe investigation. Mais globalement, pour toutes les ressources en éducation, en médias et en information, souvent, on zappe cette étape-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, c'est créé par des enseignants, donc c'est forcément très bien. Et sauf qu'en fait, quand on se retrouve confronté dans une classe avec de vrais élèves et avec 30 élèves, bien souvent, ce qu'on a imaginé et ce qu'on est capable de faire au cours d'une séance, il y a souvent un décalage. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, et même encore aujourd'hui, alors que j'ai une certaine expérience et mes collègues aussi, on sait que quand on va tester une ressource en classe, ça ne va pas être parfait, il va falloir la réajuster. Donc classe investigation, on fait ça, alors ça pourrait paraître un travail fastidieux, en fait ça ne l'est pas, parce qu'on voit petit à petit le jeu prendre forme avec les élèves. C'est-à-dire qu'on a une idée de départ, et en fait on corrige, on rectifie, on réajuste. Et ça, c'est un travail qui se déroule sur plusieurs mois, par rapport au jeu élaboré. Et ensuite, on réalise un prototype, donc là on arrive sur quasiment le produit fini, mais... concrètement, je vais vous montrer pour le scénario 4 qui est un peu différent des autres scénarios, mais on commence à réaliser les vidéos, à réaliser les sources, etc. etc. Et une fois qu'on a le produit fini, on refait des tests en classe. Et ça, en fait, c'est la garantie, c'est ce qui fait qu'on peut garantir aux enseignants que la ressource est opérationnelle. Et ça, en fait, c'est hyper important. Parce que trop souvent, on a des ressources sur le papier qui sont de bonnes idées, qui propose des pistes intéressantes, et au moment où vous devez les réaliser en classe, en fait, c'est assez compliqué, on se rend compte que ça ne marche pas, ou ça marche qu'à moitié, et on peut même mettre l'enseignant en difficulté. Nous, quand on fait des formations, puisque je ne suis pas sûr d'avoir précisé, mais Classe Investigation est diffusée uniquement via des formations, alors à distance, pour mes collègues du Pôle Sup, on est quatre, on fait des formations, donc souvent le mercredi matin ou après-midi, à distance. Mais donc, c'est diffusé via des formations. Et ça, c'est ce qui permet de répondre aux questions. Et on répond souvent aux questions des enseignants sur la faisabilité du jeu sur le terrain avec des élèves. Et on a souvent des questions très, très concrètes. Mais comment je fais, moi, dans mon établissement, si j'ai pas de salle, si j'ai pas un grand écran, etc., etc. Et moi, mes élèves, j'ai des groupes très hétérogènes, j'ai des élèves qui vont très, très vite, d'autres qui ont plus de difficultés sur certains aspects. Et le fait d'avoir fait tous ces tests en classe, d'avoir passé autant de temps avec des élèves, on est en capacité de répondre quasiment à toutes les questions. Sachant que ce qu'on précise à chaque fois, c'est que nous, on a des indications, on donne des indications de niveau, on a évidemment des entrées programmes, etc., etc. Mais à l'arrivée, c'est l'enseignant qui connaît ses élèves. Donc c'est l'enseignant qui sait s'il est en capacité de faire cette activité ou pas avec ses élèves. Et on sait très bien, notamment avec Classe Investigation Junior, que des élèves de CM1, si ça se fait en octobre ou si ça se fait au mois de mai, on n'a pas les mêmes élèves. Donc, on le dit souvent parce qu'en formation, parfois, il y a des enseignants qui sont un peu déçus en disant « Ah, mais là, ça va être trop compliqué pour mes élèves. » En fait, c'est pas grave. Il y a d'autres scénarios qui sont plus simples. Et surtout, si vous ne le faites pas là tout de suite, vous pouvez le faire l'année d'après. Ça, c'est très important parce qu'on essaye toujours de coller au terrain, mais on ne connaîtra jamais mieux les élèves que les enseignants eux-mêmes. Là, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je le précise beaucoup parce que quand on fait du clé en main, c'est pas juste on vous donne le mode d'emploi et puis vous l'appliquez directement. C'est effectivement, c'est un guide pas à pas, mais à l'arrivée, c'est à vous de savoir, à vous d'adapter en fonction des élèves. Alors, ce scénario 4 est très différent des autres parce que les trois précédents, en fait, c'est essentiellement des témoignages et des documents. Et à partir de témoignages et de documents, ils doivent construire leur contenu journalistique. Là, Classe Investigation, c'est pour le coup, c'est un vrai travail d'enquête. C'est-à-dire que les élèves doivent véritablement chercher des informations. Donc, ils travaillent au sein d'un consortium de journalistes. Et là, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est la coordinatrice de ce consortium qui, elle, va donner ses consignes, mais exactement comme dans la vraie vie, puisqu'on s'est inspiré d'une enquête de Forbidden Stories où vous avez à Forbidden Stories, donc, au sein du consortium, une coordinatrice qui va faire travailler ensemble plusieurs journalistes de plusieurs rédactions de plusieurs pays. Donc là, les élèves sont en situation où donc c'est des visios, puisque le travail au sein d'un consortium se fait essentiellement par visio. Donc là, avec les élèves, on lance des visios, et ensuite, eh bien, on leur donne des consignes pour qu'ils puissent faire un travail de recherche. Donc au départ, il y a un flash info. Là, c'est fait par un journaliste de France Télévisions qui expose donc, le début de l'histoire, l'événement, et ensuite les visios, là je vous ai juste mis quelques extraits, qui rythment le jeu. Et ensuite, les élèves accèdent à une interface où ils vont pouvoir effectuer des recherches dans des bases de données. Alors, tout ça, c'est fermé. c'est, ils vont pas sur Internet, on n'a pas mis l'interface sur le web, c'est vraiment on contrôle tout le contenu. Mais ça nous permet avec eux de travailler la question des données ouvertes, ce que je vous disais tout à l'heure, le SINT, mais aussi donc des données plus confidentielles, des bases de données fournies par un lanceur d'alerte. Et ça permet évidemment de traiter de cette question du rôle du lanceur d'alerte, le profil, à quoi ça sert, et à faire des transpositions évidemment dans la vraie vie. Alors, je vais juste vous montrer, c'est noir, mais il va y avoir une vidéo. Je vais juste, parce que je vais rentrer un tout petit peu dans l'histoire, mais la difficulté c'est que Classe Investigation, c'est des formations de 2 heures, donc je ne vais pas vous la faire en 30 minutes. Mais on va juste un tout petit peu rentrer dans l'histoire pour que vous puissiez comprendre un petit peu le mécanisme. Alors ça part d'une histoire, d'une question de blanchiment de bétail. Alors le blanchiment de bétail, c'est un petit peu compliqué à expliquer aux élèves, donc on a réalisé une vidéo pour essayer de l'expliquer simplement et je vais vous la passer.
Le blanchiment de bétail. La forêt amazonienne joue un grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'elle aide à absorber une partie des gaz à effet de serre. Mais en 20 ans, elle a perdu près de 20% de sa surface à cause de la déforestation, aggravant ainsi le changement climatique. Au Brésil, l'une des principales causes de la déforestation est l'élevage de bétail. Depuis 2017, plus de 800 millions d'arbres ont été abattus pour élever du bétail. Cette déforestation liée à l'élevage répond à une logique purement économique. Sachant qu'une bête rapporte près de 1000 euros, les fermiers cherchent à agrandir leur pâturage pour élever et vendre davantage de bétail. Pour cela, ils brûlent de nouvelles surfaces de la forêt amazonienne, en toute illégalité. Au Brésil, la vente de bétail élevé sur des surfaces issues de la déforestation est interdite. Ces fermiers qui brûlent des terres peuvent être condamnés à de lourdes amendes et leurs terres placées sous embargo, c'est-à-dire avec interdiction d'y faire de l'élevage. Mais pour contourner cette loi, certains grands fermiers et abattoirs ont mis en place un système frauduleux qu'on appelle le blanchiment de bétail. Le principe, les fermiers élèvent des bêtes sur des terres illégales, c'est-à-dire issues de la déforestation. Les bovins sont ensuite transportés dans des fermes légales. Ces animaux, désormais considérés comme provenant de fermes légales, sont ensuite vendus dans le monde entier, y compris en Europe. Ce système de blanchiment alimente un commerce lucratif, contourne les lois environnementales et accélère la destruction de l'Amazonie, et donc le dérèglement climatique.
Voilà, donc ça en fait, c'est dans le cours de la séance préparatoire, parce qu'il y a une petite séance préparatoire avant de jouer au jeu. On présente cette vidéo et puis il y a toute une séance en fait conçue par une enseignante en SVT pour travailler sur la question du réchauffement climatique, de la déforestation en Amazonie et du blanchiment de bétail. Donc ça, on va dire que c'est un cours assez classique, mais on en a besoin parce que quand les élèves vont commencer à jouer au jeu et vont assister aux visios et commencer à faire leurs recherches, il faut être sûr qu'ils aient très bien compris les notions de départ. Sinon, ça ne marche pas. Et donc l'objectif de l'enquête, c'est de montrer en fait que le blanchiment de bétail, ça aboutit en fait à de l'exportation de viande liée à la déforestation en Europe. Et ça, c'est quelque chose donc qui est toujours en cours aujourd'hui, qui est documenté depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc du coup, quand on achète de la viande qui provient de certains pays, eh bien, on contribue indirectement à la déforestation et au changement climatique. C'est ça un petit peu le schéma, et eux, ils doivent compléter notamment ce schéma. Alors concrètement, sur ce jeu-là, ce scénario-là, donc, c'est 3 séances. Une séance donc, préparatoire sur la déforestation et les changements climatiques, je vais vous dire. 2 heures de phase d'investigation et de production. Donc là, c'est 2 heures où, en fait, en 3 étapes, ils vont devoir rechercher des données, croiser des données de déplacement entre 2 fermes. Ils doivent ensuite constater via des images satellites que la ferme qui commence à être ciblée, eh bien, effectivement, a brûlé des terres à proximité depuis une dizaine d'années, etc., etc. Et en fait, ils arrivent à prouver à la fin qu'il y a eu du blanchiment de bétail. Et la production finale pour les élèves, alors c'est pas un duplex, parce que là c'est pareil, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de duplex, une fois qu'on a fait cette enquête en cours. Là, pour des questions de temps, on leur fait faire une interview, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont invités dans une matinale radio et ils doivent raconter leur enquête. Hein, c'est un peu ce qui arrive quand vous avez des enquêtes au long cours, vous avez des caches d'investigation ou autre, et bien vous avez le journaliste qui vient faire un peu la promo de son enquête. Et là, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu différent des autres scénarios où ils doivent plutôt produire un contenu journalistique classique. Là, c'est une interview. Et là, c'est hyper intéressant pour eux parce qu'à la fois, donc, il y a un côté très ludique où ils doivent chercher des infos, où c'est très rythmé par les visios, etc., etc. Et en même temps, ils font un travail journalistique d'ampleur parce que c'est une vraie enquête journalistique. Et la troisième séance, c'est la phase de débrief qui est la plus importante parce que c'est là où ils vont réaliser que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, en fait, ils ont tout simplement refait une enquête qui existe vraiment et qui a eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est inspiré, je vais vous passer la vidéo, on s'est inspiré d'une enquête de Forbidden Stories. Alors Forbidden Stories, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est un consortium de journalistes, c'est un consortium qui reprend des enquêtes de journalistes qui sont soit menacés ou qui ont été tués. Pour dire, en gros, on peut tuer le messager, mais on ne tuera pas le message. Et donc, c'est un consortium qui reprend donc, différentes enquêtes partout dans le monde, et qui ensuite publie simultanément dans différents médias européens, mais aussi à l'international, eh bien, les résultats de cette enquête. Et là, en fait, ce que je vous ai présenté très brièvement, eh bien, c'est le résultat d'une enquête de Forbidden Stories. Et je vais vous passer un extrait.
Conference was a brilliant journalist who, over the course of his career, became more and more interested in the environment and the Amazon. Wanted to talk to the people on the ground. That includes the fishermen, the indigenous people there, and experts like Bruno Pelier. John looked up to Bruno as his guide to the Amazon.
The suspect has confessed to the killing of journalist Don Phillips and indigenous expert Bruno Pereira.
He apparently led detectives to the place where the bodies were found.
He was killed because he tried to tell the world what was happening to the rainforest and its inhabitants. The story must be told.
What's happening to the Amazon affects us all. The rise of organized crime is making it harder to deal with deforestation of the Amazon.
We've been in and out of Javali Valley for 8 months now. We found some of the personal belongings and Don's press card.
Don was trying to tell a story. Bruno was trying to protect the people. I think it's our duty to tell the stories.
Évidemment, c'est un moment fort, en fait, au moment du débrief, parce que là, les élèves réalisent, en fait, que c'est une histoire qui a vraiment eu lieu. Donc, c'est Don Philippe, un journaliste du Guardian, et Bruno Pereira, qui était en gros son fixeur et son expert des populations indigènes, en fait, qui ont été tués en 2022, pour deux raisons, pour à la fois le blanchiment de bétail et puis la pêche illégale. Et donc, Forbidden a repris cette enquête avec d'autres, notamment Disclose. Et en fait, c'est un moment fort parce que c'est là où ils réalisent que tout ce qu'ils ont fait, en fait, les personnes, les histoires fictives, notamment Taliane, en fait, dans la vraie vie, elle s'appelle Yusser Youssef, et on a une interview d'elle dans le débrief qui explique comment elle a travaillé concrètement. Et donc, pour eux, ça fait écho vraiment à tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils ont vécu ce travail-là d'investigation fait par des journalistes. Et ça, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en partenariat avec Forbidden Stories. C'est qu'évidemment, on ne voulait pas se planter. Et on voulait effectivement que le travail d'investigation soit un travail réel et qu'on ne soit pas totalement à côté. Et il y a une deuxième vidéo, je ne sais pas si je vous la passe en entier. Mais c'est dans cette vidéo-là, en fait... Vous allez voir que peut-être je peux la mettre sans le son.
de Disclose, où en fait les élèves vont découvrir que les sources, les témoignages et notamment les données ouvertes, je vous donne juste un exemple, c'est un chauffeur qui transporte du bétail de fermes légales vers des fermes illégales vers des fermes légales, c'est un blanchiment. Il se trouve que ce chauffeur-là s'était pris en photo et avait posté donc des selfies de lui avec le camion, etc., en disant voilà, je viens de faire ce transport-là sur Facebook. Et il se trouve que ça fait partie des données ouvertes utilisées par Fortune. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, entre guillemets, c'est que les élèves, quand ils consultent cette source, puisque donc on leur donne accès à un réseau social qu'on a reconstitué, mais donc fermé, et ils peuvent tomber sur cette page-là, ils n'y croient pas, quoi. Ils se disent, bon, mais non, en fait, là, ça ne tient pas la route, votre scénario, etc., etc. Et il se trouve que quand on regarde, là, je vais juste passer un tout petit extrait, en fait, c'est vraiment comme ça que les journalistes de Forbidden et Disclose ont travaillé et sont vraiment tombés sur ce type de données ouvertes.
Le Brésil est le premier exportateur mondial de viande bovine. 140 000 tonnes de bœuf brésilien sont importées chaque année en Europe. Une partie de cette production est issue d'élevages qui contribuent à la déforestation de l'Amazonie. La société brésilienne JBS est le leader mondial de la viande. C'est aussi le premier exportateur de viande de bœuf vers l'Union européenne. Notre enquête révèle le rôle joué par JBS dans le blanchiment de bétail élevé illégalement dans l'Amazonie avant d'être exporté vers l'Union européenne. Des vues satellites, des données sur les mouvements de bétail et des photos postées sur les réseaux sociaux, nous allons vous montrer que JBS s'approvisionne auprès d'exploitations illégales condamnées pour déforestation. Voici la ferme de Estrela do Aripuanã, située dans l'état du Mato Grosso au nord-ouest du Brésil. Elle est située dans une zone dévastée par le déboisement de l'Amazonie, comme le prouvent des images satellites prises entre 1984 et 2016. La production de la ferme Estrela do Aripuanã est sous embargo du ministère de l'Environnement brésilien depuis 2012 pour s'être rendue coupable de déforestation illégale. Une information publique que JBS ne peut ignorer. D'autant que l'entreprise s'est engagée en 2019 à ne pas se fournir auprès de fermes illégales. JBS n'achète pas d'animaux dans les fermes participant à la déforestation ou les fermes sous embargo. Notre enquête démontre que JBS s'approvisionne en secret auprès de la ferme Estrela do Aripuanã. En juillet 2019, 4 camions de l'entreprise brésilienne récupèrent du bétail dans cette ferme, comme le montrent ces photos prises par un chauffeur et publiées sur Facebook le 12 juillet 2019.
Voilà, en fait, ils vont remonter et en fait, ils vont croiser quasiment toutes les sources utilisées dans le jeu. Ils vont voir, en fait, on les a traduites et puis on les a un tout petit peu modifiées pour pas avoir de problème. Donc, voilà, ça c'est un jeu. Alors, c'est un jeu qu'on diffuse depuis octobre 2025. On a formé à ce jeu 2000 enseignants donc, depuis octobre dans les formations à distance. Au total, classe investigation, c'est 13 000 enseignants formés depuis 2019. Et on a fait un sondage auprès des enseignants formés, on estime que c'est à peu près 850 000 élèves qui ont déjà joué à ce jeu. Donc, on est content parce que avec mes collègues du Pôle Studio, donc je vous ai dit, on est un pôle de 4 personnes, on n'est pas nombreux, mais on a trouvé, c'est pas toujours le cas, mais on a trouvé un jeu, en fait, des modalités de jeu qui nous permettent de traiter énormément de notions en éducation aux médias et à l'information. Une mécanique, en fait, qu'on n'avait pas. Alors, c'est aussi le luxe que j'ai de travailler au Clémy, c'est qu'on me laisse du temps. Il y a des ressources qui ne marchent pas. Quand ça ne marche pas, c'est pas grave. On met de côté. Et puis, parfois, on a la chance de tomber sur des pépites parce que voilà, les planètes se sont alignées. Et c'est le cas de classe investigation. Et donc, voilà, nous, on continue à faire des formations avec nos moyens. Et c'est très important de diffuser des ressources où on prend le temps de faire ces retours terrain, à la fois des demandes du terrain et l'expérience pour s'assurer que ça marche, parce que c'est ça qui est la garantie de produire des ressources qui fonctionnent et qui sont opérationnelles. Ça, c'est hyper important. Et ça ne suffit pas. Il se trouve que, je terminerai là-dessus, que donc on a participé notamment à ce qu'on appelle un GTNUM, le GTNUM Emily, qui a essayé de mesurer l'impact de classe investigation junior, donc pour les plus petits, pour voir un petit peu ce qu'il leur reste à la fois en termes de compétences et puis en termes de connaissances en éducation, médias et l'information. Et ça, pour nous, c'est hyper important parce que ça nourrit la création de ressources, puisque nous, vraiment, on est très attachés à l'idée de produire des ressources opérationnelles et qui répondent à une vraie demande de terrain, ce qui nécessite eh bien, de un peu parfois penser contre soi-même et de faire des choses différentes. Parce que, voilà, moi, je vous ai dit que j'étais professeur d'histoire-géographie, mais ça fait un moment que je ne suis plus pour élève. Nous, au Code Studio, on retourne en classe pour tester ces ressources en lien avec les enseignants. On travaille, on a un groupe de travail Media Lab de journalistes de terrain, d'enseignants qui sont en classe à temps plein. Et c'est ça qui garantit le fait qu'on réponde vraiment à un besoin. Sinon, il y a un risque d'être un peu déconnecté.
Merci. Dans les cuisines du Clémy et la conception du jeu classe investigation. Vous avez faim? Non, pas de questions? Oui.
Bonjour, je m'appelle Myriam Herrera, je suis chercheure invitée au Charisme. Et je me pose la question sur le travail avec les enseignants, parce que vous avez dit qu'ils sont à temps plein. Alors, comment on trouve les moments pour travailler avec eux parce qu'ils ont beaucoup de travail et comment on arrive à trouver des enseignants qui veulent participer à ces projets? Merci.
Alors, en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis au Clémy, donc petit à petit, en fait, on se crée un réseau d'enseignants. Là, je vais être très, très, très concret. Hein. Les enseignants, il faut qu'ils travaillent avec nous, il faut les rémunérer, tout simplement. Et donc, on les rémunère en vacation. Et donc, en fait, on a constitué un groupe qu'on a appelé le groupe Media Lab. Ce sont des enseignants qui sont à temps plein et qui, en plus de leur travail d'enseignant, eh bien, travaillent avec nous sur la conception de ces ressources. Sachant qu'on travaille beaucoup avec eux, notamment sur les tests en classe, puisqu'on fait nous-mêmes les tests, mais eux aussi font des tests dans leur classe. Donc, ça permet de démultiplier, en fait, ces tests-là. Mais c'est une bonne question, parce que quand je suis arrivé, j'avais pas ces vacations-là, en tout cas elles y étaient, mais sur d'autres projets. Et on a commencé, attention au secours, sur la base du volontariat et du bénévolat. Et donc on faisait des apéros le soir, on invitait les enseignants à l'apéro au Clémy. Et entre 18h30 et 21h30, on réfléchissait à des ressources pédagogiques en EMI. Et ça marche un temps, et puis évidemment les cacahuètes c'est sympa. Mais c'est du travail, et donc j'ai réussi à dégager des moyens pour ensuite plus sérieusement pouvoir travailler avec eux. Mais effectivement, c'est un travail au long cours de réseau, mais c'est indispensable. Moi, dans mon pôle, à la base, je suis professeur d'histoire-géographie, j'ai une autre enseignante qui est Maud Moussy, qui est professeur de lettres, mais c'est pareil, quand vous êtes en détachement, vous n'êtes plus devant les lettres. Peut-être que les premières années, c'est très frais, mais après, des élèves, je ne les vois pas au quotidien. Donc j'ai besoin d'avoir ces connexions vers le terrain et j'ai besoin d'aller en classe. J'ai besoin, moi, de voir ce que ça donne. Parce que sinon, en fait, on est déconnecté hors sol et vous produisez des ressources qui, sur le papier, sont très bien, mais en fait, ça ne marche pas du tout en classe.
Alors, on va vous demander encore quelques minutes d'attention pour découvrir le dernier projet dont on voulait vous parler aujourd'hui, qui va être présenté par Laure Delmoli, qui est en charge des affaires européenne au Clémy et qui a coordonné ce projet dans le cadre du projet De facto. En collaboration avec les services ici en charge des ingérences numériques étrangères, de cartographie des ingérences. Et ils ont fait une espèce de fresque de ces ingérences numériques étrangères qui détaille en fait les méthodes. Des différentes techniques d'ingérence numérique étrangère. On a trouvé que c'était un outil tout à fait approprié pour éclairer les élèves et les enseignants sur ces différentes méthodes. Et je laisse la parole à Laure qui va nous expliquer ce projet.
Oui, donc le programme européen des facto, ça nous apparaissait important d'en parler puisque l'AFP, on travaille quotidiennement avec l'AFP sur ce sujet et avec le charisme. Et voilà, c'est vraiment une alliance de chercheurs, de fact-checkers et d'éducateurs aux médias pour essayer de mieux répondre aux désordres informationnels. L'action, elle se fait au niveau européen. Donc il y a des hubs interrégionaux et nationaux dans toute l'Union européenne. On se rencontre régulièrement pour échanger sur nos meilleures pratiques, sur les derniers challenges au niveau informationnel qu'on doit traiter. On partage aussi des ressources pédagogiques, on essaie de les faire traduire dans différentes langues. Voilà, l'idée, c'est de mieux travailler ensemble au niveau européen. C'est un programme financé par la DG Connect de la Commission européenne. Nous, en tant qu'acteurs en éducation aux médias et à l'information, le CLEMI, notre objectif, c'est de former les formateurs à ces challenges informationnels, de les faire monter en compétences. On s'adresse plutôt à des personnes qui sont déjà un peu capées en EMI, puisqu'on thématise et on fait des formations sur des thèmes très spécifiques. Régulièrement, on organise des stages de formation où on fait venir les professeurs et les coordonnateurs EMI à Paris pendant 3 jours. D'ailleurs, il y a un stage la semaine prochaine pendant 3 jours où l'AFP collabore activement. Puis il y a 25 personnes qui viennent à Paris. On leur présente tout le travail de fact-checking autour de la désinformation, les derniers états de l'art en termes de recherche au niveau de la désinformation et des travaux qu'on a fait en éducation, en médias et en information, des retours sur expérience de nos ingénieurs pédagogiques en EMI. Et voilà, donc ce podcast, il a été produit grâce au financement de la DG Connect. Vu qu'on s'adressait déjà à un public un peu expert, il nous paraissait intéressant de travailler avec Viginum, puisqu'ils sont, ils ont le vent en poupe en ce moment sur tout ce qui est ingérence numérique étrangère. Et on voulait coproduire une ressource pédagogique qu'on pourrait mettre dans la main des enseignants qui voudraient monter des séances d'EMI en classe sur ce sujet. Mais le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes. Donc on peut aussi l'écouter en famille, si on veut, avec, avec ses enfants. Comme disait mon collègue Sylvain, on a utilisé la fiction comme médiation, parce que ça nous paraissait intéressant, justement, pour libérer la parole, d'avoir deux personnages fictifs. Donc Clara et Raphaël, c'est un frère et une sœur qui rentrent de l'école et qui débriefent un peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu dans la cour d'école ou ce qu'ils ont vu sur leur smartphone en termes d'informations et qui s'interrogent sur « Ah, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que t'en penses ?» Donc en fait, le podcast nous immerge ex nihilo dans la conversation entre les deux élèves. Et après ce dialogue, il y a ce qu'on appelle la phase d'institutionnalisation, comme m'a appris mes collègues ingénieurs pédagogiques, où en fait l'idée c'est de prendre de la hauteur sur le sujet, de donner les derniers exemples d'actualité qui correspondent à cette ingérence numérique étrangère et qui permettent en fait aux professeurs qui voudraient monter la séance d'EMI de prendre de la hauteur sur le sujet et d'avoir des starters conversationnels avec les élèves pour pouvoir traiter le sujet en classe et pour pouvoir créer le débat. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Viginum qui a identifié et qualifié différents modes d'ingérence numérique étrangère. Donc là, je vous les ai détaillés, le typo squatting, l'astroturfing, les bots. Bon, il y en a, vous les connaissez déjà, mais il y en a d'autres, ils sont un peu plus... Le spamouflage, le copypasta, les trolls, qui sont vraiment des... maintenant, c'est utilisé tous les jours, notamment par la propagande russe, la propagande chinoise. Il y a tous les rapports de Viginum qui sont mis en ligne régulièrement sur toutes les campagnes massives de désinformation, avec des études de cas très détaillées. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que l'équipe de Viginum, ils ont vraiment qualifié tous les modes opérationnels, ils leur ont donné des noms. Et donc l'idée, c'était de pouvoir partager cette expertise avec les élèves qui en connaissent certains, mais peut-être à moitié, qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, et avec une audience plus large. La façon dont on a travaillé, c'est qu'on est évidemment allé voir une classe de lycéens pour les interroger sur... c'était une classe média, pour les interroger sur leurs pratiques informationnelles, pour voir un peu quels étaient leurs centres d'intérêt, parce que l'idée, c'était de rendre cette expertise accessible et d'intéresser les élèves à cette expertise, ce qui n'était pas forcément facile comme cahier des charges, parce qu'on est quand même sur des choses très pointues. Et donc, on a eu toute une conversation avec Virginie, avec les experts de Viginum et avec l'auteur aussi qu'on a convié, puisque on a travaillé avec un auteur de fiction pour échanger avec les élèves sur leur centre d'intérêt. Ce qui est ressorti, c'est qu'ils s'intéressaient plutôt au sport, au show business et un peu à la géopolitique. Donc, l'idée, on a pris ces thèmes. Et on a demandé à l'auteur de fiction de travailler sur ces thèmes. Et donc là, l'idée, c'est de vous faire écouter un des podcasts.
Le débrief de Clara et Raphaël. Comment débusquer les manipulations numériques.
Bravo, vous êtes sur Internet.
You are fake news.
Attention les jeunes.
Toi, t'es bien silencieux aujourd'hui.
Ouais, peut-être.
Soit t'es mélancolique, soit t'es en train de bloquer sur un truc.
Je me souviens plus. C'est quoi Gossip Girl déjà?
Ah ok, sans transition. Une série d'il y a genre 15-20 ans, je dirais. Sur la jeunesse dorée de New York. Des filles sublimes dans un lycée privé avec des intrigues amoureuses. Genre, tout le monde couche avec tout le monde et boit du champagne en soirée.
So, when's the party? Saturday. And you're kind of not invited.
T'aimais bien, toi?
Bon, c'est pas trop ma carte. En plus, c'est vieux comme rêve. Pourquoi tu t'intéresses à ça?
Bon, laisse tomber. Tu vas encore dire que je suis obsédé par mes trucs de geek.
Mais non, allez.
Bon, mais tu promets de pas te moquer, hein?
Juré.
Je m'intéresse à Blake Lively.
Ah bah oui, clairement, t'es un obsédé.
Mais non! Moi, tu viens de promettre.
Oh, pardon, je te charrie. C'est bon, continue.
Blake Lively, l'actrice de...
Gossip Girl.
Hein, oui, et de plein d'autres trucs que j'ai pas vu non plus.
C'est normal. Elle joue pas dans des films avec des extraterrestres et des sabres laser ou des robots. Ah bon, à part dans Deadpool, mais elle avait un masque, tu l'as pas reconnu.
What are you talking about? The multiverse is over.
Mais c'est une star, quoi. Je comprends toujours pas pourquoi tu t'intéresses à elle.
Eh ben, son dernier film, Jamais plus. Il y a eu une enquête hyper intéressante du New York Times dessus.
Une enquête sur un film? Sur le tournage, tu veux dire?
Pas seulement, mais ça part de là, effectivement.
C'est-à-dire?
Apparemment, Blake Lively a d'abord mis en cause le réalisateur et le producteur du film pour des comportements sexistes pendant le tournage.
Ok, on est en post-MeToo, mais pas vraiment encore, en fait.
Selon elle, le mec lui a montré une vidéo de sa femme nue et il est entré dans sa loge pendant qu'elle se changeait.
T'es un tordu, toi.
Encore un gros dégueulasse, quoi.
Un gros dégueulasse avec une super réputation. Il vient de recevoir un prix pour son engagement aux côtés des femmes à Hollywood.
Comme réputation. C'est pas un peu une peste?
En fait, c'est sur ça l'enquête. Apparemment, elle s'est plainte et tout est rentré dans l'ordre pendant le tournage, mais ça s'est gâté pendant la promo du film. Lively et plusieurs actrices du film, et même l'autrice dont le livre était adapté, se sont assez clairement éloignées du réalisateur. Genre, ça a été remarqué par des TikTokers.
Jusque-là, il n'y a pas mort d'homme, si?
C'est après que ça part en sucette. D'après l'article, le réalisateur et les producteurs ont flippé qu'elle fasse des révélations pendant la promotion.
Mon petit doigt me dit qu'ils sont pas allés s'excuser auprès d'elle.
Non, ils ont embauché des pros des relations publiques pour démolir sa réputation. Dans un texto, le mec dit qu'il veut la voir enterrée.
Mais t'es pas bien dans ta tête, là.
Ça a marché. Enfin, je sais qu'elle a pas été enterrée vivante, mais sa carrière. Regarde, sur son Insta, elle a toujours 45 millions de followers.
Bah, le premier truc que tu m'as dit, c'est que c'était une peste. Et il y a eu des articles qui affirmaient qu'elle allait être cancel. En tout cas, elle a porté plainte. Elle affirme qu'une campagne organisée sur les réseaux sociaux a détruit sa réputation et a fait baisser le chiffre d'affaires de sa boîte de produits de beauté.
Et qu'est-ce qu'elle a comme preuve?
Le procès est en cours. Enfin, les procès, parce que les gars vont contre-attaquer à base de plaintes pour diffamation contre tout le monde. Mais il y a plein d'indices troublants.
Genre quoi? Genre comme...
Bon, Je ne vais pas vous faire écouter tout le podcast parce que c'est un peu long mais, et que tout le monde a faim. Mais là, en fait, l'idée, c'est de donner à voir le mode opératoire d'astroturfing avec des publications en masse sur un sujet pour faire croire qu'il est très très fort dans l'espace numérique, alors qu'en fait, on le fait monter artificiellement. Et ça, c'est énormément utilisé par tous les acteurs malveillants. C'est très souvent qualifié par Diginum. Là, on l'a juste transposé à un thème qui parle aux adolescents, parce que l'idée, c'était de parler aux adolescents, dont a été victime Blake Lively, mais ça a peut-être moins de conséquences, en tout cas au niveau national et international, que quand c'est utilisé en géopolitique. Et donc, on est vraiment sur le dialogue entre le frère et sa sœur pour libérer la parole. Pour que après les élèves puissent un peu donner leur avis, dire s'ils sont identifiés, s'ils connaissent cette pratique, s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec la réaction des personnages qui essayent de décrypter le mode opératoire avec leur niveau de connaissance. Et à la fin, on a la phase d'institutionnalisation.
Technique pour camoufler les bots vont évoluer et que ce sera...
Les bots, voilà. B-O-T-S, sont des comptes sur les réseaux sociaux dont les actions ou la création ont été automatisées par un programme informatique pour simuler le comportement d'un être humain. Un bot peut être capable de faire des publications, de laisser des commentaires, de suivre des comptes, de partager ou d'aimer d'autres publications. Ils utilisent souvent le copy-pasta, un procédé qui consiste à publier sur une ou plusieurs plateformes un même bloc de texte ou de visuel selon la technique du copier-coller dans le but d'amplifier la visibilité d'un message. En France, des étoiles de David ont été taguées sur des murs du visite.
Voilà, donc quand on est dans un phénomène d'astroturfing, on utilise plein de techniques. Il y a les bots, la publication automatique par des bots, le copy-pasta, enfin, plein de modes opératoires pour pouvoir faire monter un sujet artificiellement. Et après, l'idée, c'est de donner des exemples récents d'actualité sur lesquels les professeurs peuvent travailler avec leurs élèves. Et cette ressource a été montrée à la Commission européenne dans notre groupe justement de travail d'experts en éducation aux médias et à l'information auprès de tous les pays membres de l'Union européenne comme exemple de ce que pourraient faire les autres pays européens sur les ingérences numériques étrangères parce que l'Europe y est sérieusement confrontée. Voilà.
Merci. Non, c'était très intéressant dans vos trois exposés, mais j'en ai participé. Et je me posais la question, parce que vous êtes tous les trois opinions, c'est un peu le but de la table, c'est comment tout ça s'articule, enfin, je veux dire, est-ce que, voilà, enfin, comment tout ça est organisé, est-ce que vous avez des contacts, est-ce que vous êtes...
Non, c'est pas vrai.
Voilà.
Comment ça s'articule, vous voulez dire concrètement?
Oui, institutionnellement, enfin à l'intérieur. Bah, en fait, est-ce qu'il y a encore d'autres projets? Quelle part ça représente par rapport à vos projets autour des jeux?
Alors on n'a pas de statistiques, aujourd'hui, en tout cas s'il y en a, moi je ne les ai pas en tête par rapport à le volume ça trompe de se consacrer aux jeux. En tout cas, on a des réunions hebdomadaires entre les différents services pour se tenir informés.
Tous les services du CLEMI,
oui.
À tous les services du CLEMI, oui. Des réunions hebdomadaires.
Mais tous les services du CLEMI, vous savez, on est 20
personnes.
D'accord.
On est, voilà. Mais après, c'est ouais. Parce que le CLEMI, c'est tous nos coordinateurs en académie aussi. Et donc là aussi, on a des,
prends le micro, parce que
des réunions... On a aussi des réunions régulières et puis on collabore aussi avec nos coordonnateurs et les référents académiques à l'éducation aux médias. Mais voilà, en interne, effectivement, il y a une direction scientifique et pédagogique qui fait le lien aussi entre les différents projets pour les accompagner, une direction déléguée. Puis voilà, des pôles qui, c'est vrai que Laure est plus tournée sur l'Europe et donc se déplace, elle va tout à l'heure à Strasbourg, enfin elle est souvent en mission, mais on essaye au maximum de travailler en transversalité et d'articuler, comme vous l'avez compris, la question de la production des ressources et de la formation, parce que Sébastien, comme il l'a dit, il est formateur, même s'il est le chef du pôle de production de ressources. Et Sylvain peut être amené à produire des ressources même s'il est ingénieur de formation. Donc en fait, on est tous un peu aussi couteau suisse et dans une forme de... Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à la question.
J'aurais envie de voir l'organigramme, en fait.
Il est sur le site du CLIL.
D'accord.
Et donc, juste pour finir, nous, au Classe Investigation, on l'utilise en formation pour former les enseignants aussi lorsqu'on travaille sur l'écriture journalistique, on travaille sur des choses comme ça, ou sur la production. On va utiliser Classe Investigation parce que ça correspond aux besoins de formation des enseignants. Donc, c'est un outil en classe. Mais voilà, on s'est réutilisé également en formation sur des sujets pointus, plus que, en tout cas, ce qui est vu en classe un peu différemment, en A que de formation.
Et tous les textes du podcast, ils ont été relus par l'ensemble des pôles du CLEMI, que ce soit le pôle des ingénieurs pédagogiques, le pôle production de ressources. Là, c'était un peu différent parce qu'on était dans le cadre d'un processus de coproduction, puisqu'on a travaillé avec un studio de podcast indépendant et un auteur indépendant. Mais au niveau de la pédagogie, ils ont tout relu et tout validé avant enregistrement.
Merci beaucoup.